Eh bien, bonjour. Vous êtes sur Radio Graphite, la radio curieuse, dans mon émission Glissando, qui veut vous faire découvrir des œuvres classiques, mais pas que. Eh bien, pour commencer cette émission du mardi 15 mars, hein, du mercredi 15 mars, oh là là, ça commence bien, tiens. Eh bien, je vous propose de retrouver tout d'abord le compositeur suédois Hugo Alfven, donc nous avons fait la connaissance la semaine dernière, j'espère vous vous en rappelez. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un petit rappel. Hugo Alfven était un compositeur, chef d'orchestre, violoniste et peintre suédois. Né à Stockholm le 1er mai 1872 et mort en 1960. Surtout connu pour ses symphonies et ses rhapsodies suédoises. Il a étudié le violon, quelle bonne idée, et la composition au Conservatoire de Stockholm. Et il a été violoniste à l'Orchestre de l'Opéra Royal de Suède. Voilà, je vous ai fait un petit résumé. On ne va pas redire tout ce qu'on a dit la semaine dernière parce que vous vous en rappelez bien sûr. Alors, mercredi dernier, on avait écouté un extrait de sa quatrième symphonie, mais ce matin, ce sera une autre œuvre, le Festival Ouverture de 1944.
Thank you.
Eh bien voilà, c'était justement d'un certain Hugo Alfvén. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer parce que c'est un Suédois. Alors, il y a peut-être une autre façon de le dire, mais bon, soyons phonétiques. Et donc, c'était Festival Ouverture de 1944. Après la Suède, nous partons aux États-Unis avec le roi Anderson. Le roi Anderson, qui est né en 1908 et mort en 1975, à 66 ans, c'est un compositeur américain de pièces de concert courtes et légères. Et beaucoup ont été introduites par le Boston Pops Orchestra sous la direction de Arthur Fiedler. D'ailleurs, John Williams, dont on a parlé il y a quelque temps, puisque je vous avais fait des émissions sur la musique de film, John Williams l'a décrit comme l'un des grands maîtres américains de la musique orchestrale légère. Né à Cambridge, Massachusetts, de parents suédois, oui, c'est pour ça, ça fait un petit lien avec notre compositeur d'avant, Anderson a reçu ses premières leçons de piano par sa mère, qui était organiste à l'église. Il a poursuivi ses études de piano au New England Conservatory of Music. En 1925, il entre au Harvard College, où il étudie l'harmonie, le contrepoint, le canon, la fugue, l'orchestration, la composition, enfin, tout ce qu'il faut apprendre, forcément, pour devenir compositeur. Mais il a aussi appris à jouer du piston, de la contrebasse, de l'orgue, et qui a dû beaucoup l'aider, parce que c'est qu'un compositeur, il écrit pour plusieurs instruments, des cordes, des vents, des percussions. Donc, s'il a une meilleure notion de ces instruments, comment on les utilise, quels sons ils fabriquent, c'est d'autant plus facile pour lui, après, justement, de faire ses compositions. Alors, il a poursuivi aussi ses études à Harvard, préparant un doctorat en langue allemande et scandinave. Il parlait anglais, suédois, a fini par parler aussi le danois, le norvégien, l'islandais, l'allemand, le français, l'italien, le portugais. Ah ben, dites donc, il était sacrément fort, ce Leroy Anderson. Il a rejoint même l'armée américaine en 1942 et il a été affecté en Islande avec le corps de contre-espionnage américain en tant que traducteur et interprète. Alors, de Leroy Anderson, je vais vous proposer deux petits extraits très drôles. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Horse and Buggy. Et là, les amateurs de trompettes vont être très, très contents. Voilà. Au moins, vous allez entendre un peu de cuivre. Et l'autre qui s'appelle Pling Plong Plunk. Et en fait, pourquoi ce nom? Parce que c'est une musique très vivante, mais qui est jouée en faisant des pizzicati. Les cordes font des pizzicati. Qu'est-ce que c'est les pizzicati? Vous vous rappelez? Eh bien, c'est avec le doigt, on fait un petit peu comme pour la guitare. On va un petit peu, en fait, pincer, tirer les cordes pour faire des sons, au lieu d'utiliser un archet. Eh bien, allons-y. Thank you. Oui, c'est une musique très très drôle. Et attention, maintenant, on va entendre les Pizzicati. Et je voudrais offrir ce morceau à mon ami Jean. Eh bien, c'est drôlement drôle, cette musique, vous ne trouvez pas? Et on entendait bien pling, plang, plonk. Voilà le nom de cette musique en pizzicati. Vraiment très drôle, de Anderson. Je voudrais maintenant vous présenter un compositeur peu ou pas connu qui s'appelle Charles Valentin Alcan. 1813-1888, compositeur et musicien aussi précoce que Mozart, doué d'une technique aussi solide que Liszt, ami de Chopin, qui à sa mort lui a légué d'ailleurs ses élèves. Il a été reconnu de tout temps comme un pianiste hors pair dans la tradition de la grande virtuosité de l'époque romantique. Il ne donnait que peu de concerts et s'était bâti une solide réputation de misanthrope, surtout après son échec en 1848 où il briguait le poste de professeur de piano conservatoire, finalement attribué à un certain Marmontel. Néanmoins, c'était un pédagogue réputé et il gagnait sa vie en donnant des leçons. Alcan est mort en 1888 et si vous voulez vous recueillir sur sa tombe, eh bien ce sera au carré israélite du cimetière de Montmartre. Je vous propose une œuvre d'Alcan qui se nomme Esquisse. Alors c'est une œuvre pour piano, avec au piano Pascal Amoyel, qui est un pianiste qu'on entend beaucoup, qui est vraiment très très bon musicien. Il avait fait un bac scientifique, mais il a décidé de se consacrer à la musique. Il avait eu un premier prix de piano et de musique de chambre au Conservatoire National de Paris. Il a été lauréat des fondations Menuhin et Xifra, a passé de nombreux concours internationaux. Enfin, c'est un grand monsieur, Pascal Amoyel. Donc, il va vous interpréter Esquisse. Vous aurez en fait trois parties, les cloches, la vision et les soupirs. Après la vision, nous allons entendre les soupirs de cette musique plutôt contemplative. C'était donc Esquisse de Charles Valentin Alcan. Nous allons rencontrer maintenant Georges Auric. 1899, il est mort en 1983. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus près de nous. Georges Auric était un compositeur français, né dans le Hérault, dans l'Hérault plutôt, voilà, et inhumé au cimetière de Montparnasse aussi à Paris en 1983. Il a fait ses premières études de piano au conservatoire de Montpellier et il est rentré après au conservatoire de Paris où il a étudié la composition avec Vincent Dindy à la Schola Cantorum de Paris. À partir de 1915, il fréquente Igor Stravinsky, Eric Satie, avant de se joindre au groupe des Six avec Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Louis Duré et Germaine Taillefer. Alors, le groupe des Six, on va en reparler un petit peu après, si vous le voulez bien. On va d'abord continuer avec Georges Auric, qui fut aussi en fait un ami de Jean Cocteau et du peintre Jean Hugo. Il a écrit des critiques musicales dès 1913, alors qu'il n'avait que 14 ans. Et il a fait ça dans la Revue française de musique. Mais il a aussi composé des musiques de films, aussi célèbres que Orphée de Jean Cocteau, Moulin Rouge, Lola Montes, de Rififi chez les hommes, Le mystère Picasso, Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, La grande vadrouille de Gérard Houry et La belle et la bête. Et justement, je voudrais vous faire écouter un extrait de La belle et la bête de Georges Auric. Thank you. Eh bien voilà, une affaire qui finit bien, La Belle et la Bête, vous connaissez ça bien sûr, hein, cette bête qui est en fait un homme grimé en bête. Vous avez dû certainement voir ce film qui date d'un certain temps quand même, mais bon, qui reste toujours aussi beau. Vous voyez, et ça finit bien, voilà, ça finit bien, soyez rassurés. Alors je vous parlais tout à l'heure justement que Georges Auric avait fait partie du groupe des Six. Les Six, c'est une compositrice et 5 compositeurs rassemblés à Paris sur la fin de la Grande Guerre autour d'Éric Satie et surtout de Jean Cocteau. L'histoire commence en 1916. La bataille de Verdun fait rage, mais la vie artistique continue sur Paris. Cette année-là, Cocteau et Satie font la connaissance d'un tout jeune prodige venu de Montpellier qui s'appelle Georges Auric. En mai 1917, Cocteau et Satie présentent au Châtelet, avec Picasso, leur ballet Parade, qui fait vraiment scandale à l'époque. Et justement, un bidas de 18 ans, enfant d'une riche famille d'industriels, applaudit à tout rompre. C'est Francis Poulenc. Et de deux. Un atelier de peintre à Montparnasse accueille alors des concerts-expositions. On y présente des œuvres de Georges Auric avec 2 de ses camarades de conservatoire, le franco-suisse Arthur Honegger, et allez, 2-3, et le fils d'un typographe qui renonce à la fabrique familiale et se consacre à la musique après avoir entendu Péléas de Debussy. Mort en 1918, c'est lui Duret et de 4. Ces jeunes gens ont bien remarqué la première de la classe qui s'est imposée au conservatoire malgré l'opposition de son père et qui veut à tout prix être musicienne. Eh bien voici Germaine Taillefer, protégée de Satie et de Ravel, et de 5. Il ne manque plus que le 6e. Eh bien, ce sera Darius Milhaud, devenu secrétaire de l'ambassadeur de France au Brésil, qui était Paul Claudel. Milhaud est de retour à Paris en 1919 et on se rassemble dans son appartement chaque samedi soir pour faire de la musique, réciter des vers, papoter, faire la fête. Les samedistes, comme on les appelle, sont avant tout une bande d'amis. Darius Milhaud a rapporté du Brésil, du carnaval brésilien, des rythmes qu'il va intégrer dans son œuvre « Le bœuf sur le toit », une partition qui donnera d'ailleurs son nom à un établissement couru par le tout Paris entre Concorde et la Madeleine. On y croise les pianistes Jean Vienner, Marcel Meyer, son mari comédien Pierre Bertin, mais aussi Arthur Rubinstein. Alors du coup, eh bien, je vous propose « Le bœuf sur le toit » avec en soliste Renaud Capuçon. Thank you.
Thank you.
bien, j'espère que vous avez apprécié cette musique au caractère tellement brillant, avec des dissonances, des effets sonores bizarres. Hein. Voilà, c'était Le Bœuf sur le Trois de Renaud Capuçon. Eh bien, c'était pour terminer un petit peu notre heure de musique de Glissando sur Radio Graphite. Et puis, tiens, comme on a encore quelques minutes, eh bien, écoutez, on va revenir à Leroy Anderson avec un petit morceau que vous connaissez certainement, The Typewriter. Comment on utilise aussi des machines à écrire pour faire de la musique. Vous avez certainement déjà entendu ça avec nos comiques. Allez, on continue un petit peu, je vous laisse avec Leroy Anderson pour terminer. À bientôt, à la semaine prochaine.